partout en Île-de-France, écoutez les programmes d'IDFM sur 98 FM. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est Hélène Kerkeny, assistée efficacement de Francky à la technique. Un grand merci d'avance, Francky. Nous voici en plein printemps, à l'heure subtile entre chien et loup, devant mille et un chemins ouverts, où nous allons marcher pendant cette heure partagée sur nos ondes d'IDFM Radio. Ce soir, nous restons dans le Val d'Oise et nous allons à la rencontre de trois artistes. Deux exposent jusqu'en septembre au musée d'art et d'histoire de l'Isle-Adam. Le titre de leur exposition, Emprunt lointain. Le troisième artiste nous attend à Saint-Gratien, au centre culturel Jacques Villéglé, place du Forum, vous connaissez, jusqu'à la fin du mois de juin. Le titre de son exposition, Endroit incertain. Alors si je rapproche du premier titre que je vous ai donné, Emprunt lointain, Endroit incertain, ben vous voyez évidemment que les deux titres se répondent. Nous allons donc en balade d'abord dans la jolie ville de l'Isle-Adam. Bonjour Marie Azouani, ou Azani, oh ça commence bien. Bonjour Nicolas Carrier.
Bonjour Hélène.
Et bonjour Caroline Oliveira.
Bonjour.
Alors je suis au musée Louis Sanlec de l'Isle-Adam, un musée que va nous définir Caroline, sa directrice. C'est un musée de quoi, Caroline ?
Alors, c'est un musée d'art et d'histoire, avec une thématique très forte dans nos collections, qui est la thématique du paysage, avec les peintres des bords de l'Oise, et notamment la figure de Jules Dupré, qu'on a exposé il n'y a pas très longtemps, dans une très belle exposition, Impression au fil de l'Oise. Mmh. Et pour cette exposition, consacrée aux deux artistes Marie Oisani et Nicolas Carrier, il était question aussi de mettre en avant le paysage, mais avec des médiums et des pratiques artistiques qui ne sont pas montrées dans le musée et qui ne font pas forcément partie des collections du musée, qui sont l'installation, la vidéo et les photographies.
Voilà, donc on a ces deux artistes qui vont nous servir de guide, hein, pour cette visite. Ce sont deux jeunes artistes, ils se sont installés, le mot est juste, au musée Louis Sanlec, donc de l'Isle-Adam, jusqu'en septembre prochain. C'est une exposition que tous les Val-d'Oisiens, et même les Franciliens, et même les Français, auront donc le temps de venir voir, hein, puisque là, nous sommes au mois de mai, et qu'il y a beaucoup de temps disponible devant nous. Pas pour tout le monde, mais les uns les autres trouveront bien un moment pour venir se promener à l'Isle-Adam et découvrir cette belle exposition. Alors on va d'abord parler, si vous voulez bien, Marie Oisani, hein, voilà, cette fois je prononce bien votre nom, et Nicolas Carrier. On va parler de votre parcours respectif. Votre parcours respectif, eh bien, les deux se sont rejoints il y a 8 ans. Donc pour Marie d'abord, est-ce qu'on est artiste ? NIT, ou est-ce qu'on le devient ?
Alors, on le devient, très clairement. Oui, notre parcours...
Le vôtre, d'abord.
L'école d'art, j'étais étudiante à la Villarson, à Nice.
Oui.
Voilà, j'ai été diplômée en 2015, qui est aussi la date de la création de notre duo.
D'accord. Donc, votre diplôme correspond à votre rencontre ?
Exactement. Oui.
D'accord, très bien. Bon, diplômée, qu'est-ce qui... alors, Marie, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire cette école ?
Alors, beaucoup de choses. Déjà, c'est une très, 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 très belle école qui a beaucoup de moyens, qui était très intéressante.
Mais on n'arrive pas à cette école d'art de Nice. Tous les étudiants n'y vont pas. Donc, vous, qu'est-ce qui a fait que vous vous sentiez une âme d'artiste quand vous étiez petite et puis plus grande ?
Alors c'est une question, c'est toujours un peu difficile de répondre parce qu'on ne peut pas vraiment déterminer un moment où on aimerait tous, mais tout s'est joué. Mais c'est vrai que moi, c'était une intuition très très forte quand j'étais au lycée, que j'avais très envie d'aller vers les Beaux-Arts. Mais je ne savais pas exactement si c'était l'art appliqué ou les Beaux-Arts. Oui. Et tout d'un coup, j'ai rencontré des professeurs et j'ai eu des discussions. Et là, j'ai vraiment senti que c'était les Beaux-Arts.
Que c'était votre voie.
C'était ma voie, ouais.
Voilà. Très bien. Et c'est une vocation que vous aviez petite, où vous gribouilliez, vous dessiniez, vous aviez toujours un crayon à la main ou un appareil photo?
Alors moi, j'étais beaucoup dans le découpage, collage.
Ah oui.
Tout à fait honnête. Oui. C'était plutôt ma voie.
C'est ce que vous
aimiez.
Ouais. D'accord. Bon, très bien. Comme ça, on a une petite idée du pourquoi de votre vocation d'artiste. Quant à vous, Nicolas, depuis Brive. Comment est née votre passion?
Brive, j'y suis né, mais je n'ai jamais vécu.
Ah, pardon. Alors, vous avez vécu où?
J'ai vécu en Algérie quand j'étais enfant.
Ah, quel paysage là-bas!
Et puis après, en banlieue parisienne, dans le 94.
D'accord. Et donc, vous avez fait quelle école d'art, vous?
Alors, moi, j'ai un DEA de cinéma à la Sorbonne Nouvelle.
Oui.
Et un master à l'école d'art de Cergy.
Ah, Cergy, d'accord. Bah, pas loin du tout d'ici, finalement. Okay. Donc, vous êtes chez vous, allez là-dedans. Très bien. Alors, ça, c'est votre parcours à chacun. Et puis, en 2015, vous vous rencontrez. Et comment se fait-il? Alors, je ne vous demande rien d'indiscret, évidemment, mais je sais que vous êtes ensemble. Comment se fait-il, justement, qu'il y ait eu cette connivence entre tous les deux?
En fait, au départ, on a d'abord été un couple, puisque vous en parliez. Nos travaux respectifs se retrouvaient sur pas mal de...
Vous aviez des points communs.
De thématiques, d'esthétiques, et on s'est un peu intéressé évidemment assez vite au travail l'un de l'autre. Et on a décidé, on était en résidence en Corée, on a fait une première vidéo ensemble, et puis on a projeté de continuer quand Marie aurait son diplôme. Parce que moi, étant plus âgé, j'étais déjà diplômé.
D'accord. Donc vous l'avez attendu?
Pas beaucoup.
On peut dire ça.
Complètement.
Et, elle
m'a rattrapé. Ah ben voilà, oui, il y a deux points de vue, hein. Forcément. Et vous êtes restés longtemps en Corée, tous les deux? Parce que c'est quand même un endroit dépaysant.
Ben, en fait, c'était une résidence que moi j'avais eue de mon côté, on va dire.
Oui.
Marie est venue pour les vacances, et au lieu de. Pendant deux semaines, au lieu de faire les vacances, voilà, on a travaillé ensemble.
Très bien.
Voilà. Pour la première fois.
Pour la première fois, travail en commun. Donc, vous avez décidé de créer ensemble, hein, puisque vous avez des points de vue communs ou qui se rejoignent, d'unir vos points de vue. Quels étaient et quels sont, parce que je pense que ça dure, vos thèmes de prédilection? Et puis, qu'est-ce qui, dans votre vie aussi, a motivé vos choix artistiques depuis votre rencontre, puisque c'était en germe, on l'a bien compris, avant que vous vous retrouviez tous les deux?
Alors, je pense qu'il y a eu un voyage assez fondateur,
oui,
dans la construction de notre travail commun.
Mm-hmm.
Ça a été un long séjour en Chine, où,
oui,
on était donc à Shanghai et à Xiamen. Et au début de notre pratique artistique, on avait une très forte envie de travailler ensemble, mais évidemment, les choses n'étaient pas si claires comme elles sont maintenant.
Oui.
Et dans ce voyage, on s'est beaucoup intéressé à la question de la ville, et c'était un moment de très forte pollution en Chine aussi, mm-hmm, et à la question des plantes. Et tout d'un coup, tout s'est comme ça un petit peu
le puzzle s'est mis en place,
exactement. Mmh. Et on s'est demandé, après ce long voyage, quand on est rentré en Île-de-France, comment aussi on pourrait retrouver ces problématiques dans des paysages qui sont beaucoup plus proches de nous, qui,
oui,
sont les endroits où on vit. Et c'est vrai qu'avec les transformations du Grand Paris qu'on vit actuellement, on,
oui,
pouvait faire des liens,
mmh,
entre la ville, les plantes, et aussi cette question du dérèglement climatique qui nous intéresse et assez moteur de notre travail.
D'accord. Et vous étiez en Chine, parce qu'il faut vivre quand même, hein, quand on est deux artistes. Est-ce que vous étiez en résidence? Est-ce que vous étiez invité en Chine? Ou bien vous alliez encore, comme en Corée, en vacances, et puis vous en avez profité pour travailler?
En Corée, c'était une résidence également.
Oui, vous, c'était une résidence. C'était vous, Marie, qui étiez en vacances.
Enfin, venez me voir.
Voilà, on a tout compris.
Nous, en tant qu'artistes, on participe à divers programmes pour les artistes. Donc en Chine, on était dans un post-diplôme qui était en lien avec une université à Shanghai et une université à Annecy, si je me souviens bien.
D'accord.
Et, à Nancy. Bon. Et également une résidence qu'on a faite.
Voilà, d'accord. Donc ce que je veux dire par là, c'est que vous étiez détaché de toute contingence financière, vous étiez tranquille, vous pouviez mener votre création artistique un peu comme vous l'entendiez.
Oui, on peut dire ça.
Voilà, on peut dire ça comme ça. Très bien. Alors, depuis ou pendant, il y a eu de nombreuses expositions. D'ailleurs, vous avez gagné des prix, vous avez eu des soutiens divers. Alors, j'aimerais bien que vous nous donniez des titres. Vous allez parler un peu, Nicolas, des titres de vos expositions, parce que je trouve que les titres sont révélateurs de votre travail et puis de vos intentions. Ah, je vous pose une colle.
En fait, les titres sont souvent composés de deux mots, en fait.
Oui.
Et souvent, on crée un collage entre deux mots, un rapprochement. Ils peuvent être également liés à des noms de lieux.
Oui.
Par exemple, des photos peuvent avoir le nom des lieux. Et souvent, nous conservons également la langue du pays dans lequel nous travaillons, nous créons.
Donc dans le titre, il y a un mot dans la langue du pays, dans le titre de votre exposition.
Je parlais des titres des œuvres aussi, parce que c'est assez important. Les titres des œuvres sont souvent dans la langue du pays.
D'accord.
Les titres des expositions sont plus des collages entre des termes pour créer quelque chose de poétique et de... par exemple, l'exposition... Viagem Parasol que nous avons fait à Lisbonne,
oui.
Voilà, elle est en portugais, ça veut dire voyage par soleil, par le soleil. Donc il y a un jeu de mots par rapport à cette question du par soleil et du passage par le soleil.
D'accord. Donc c'est ce que je voulais dire, hein. Les titres, ils sont souvent, je ne vais pas dire accrocheurs, ce n'est pas un mot qui est très joli, mais en tout cas, on a dans le titre de votre exposition une vision un peu de ce que vous allez donner. Alors moi, j'en ai relevé quelques-uns qui m'ont beaucoup plu. Il y a climat, quelle culture pour quel futur.
Alors ça, ce n'est pas un titre que nous avons choisi, nous. En l'occurrence, ça, c'est un titre d'un événement au centre Pompidou. C'est les événements ou les expositions qui sont collectives, c'est pas nous qui choisissons forcément les titres.
D'accord.
Donc, plutôt les titres des expositions. Voilà, nous, ce qu'on choisit, c'est les titres des expositions personnelles. Donc, comme par exemple le titre de l'exposition ici qui est Emprunt lointain.
Oui, on va y revenir dans 10 secondes. Mais voilà, j'ai par exemple Ode aux plantes des villes, ça c'est de vous. Pourtant, alors là, ça vous correspond tout à fait.
Non, nous, on est plus dans des titres où il y a deux mots, et souvent se confrontent dans ces deux termes à la fois quelque chose de très urbain, de très industriel, lié au futur, à la science-fiction.
D'accord.
Avec quelque chose parfois aussi de plus végétal.
Alors, est-ce que seule fiction, c'est de vous?
Oui.
Ah, bon, j'y suis arrivée. Est-ce que penchant orbital, c'est de vous?
Oui.
Ça y est, j'y suis. Et puis, future récolte.
Oui.
Ah, vous voyez, ça m'a plu, ces titres. Et le dernier, c'est soleil sensible.
Oui.
Aussi.
Oui.
Bon, d'accord. Donc, on termine vraiment sur des choix de titres qui vous sont personnels et qui ouvrent l'imagination. Ça, j'avoue. Alors, on revient, Nicolas, et vous avez tout à fait raison, au musée Louis Sanlec, où donc vous proposez cette exposition qui s'intitule, redites-le-nous, s'il vous plaît.
Emprunt lointain.
Emprunt lointain. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le titre, Marie?
Oui, alors notre envie pour ce titre était liée au fait que dans cette exposition, on a fait une transformation architecturale du lieu. Donc on a enlevé des cloisons qui se situaient devant des fenêtres. Et donc du coup, quelque part, on emprunte le paysage de l'Isle-Adam à l'intérieur de l'exposition. Mais aussi, emprunt lointain, ça joue avec cette question de la mondialisation et des plantes qui sont venues de très loin, qui sont des plantes souvent qui sont présentées dans l'exposition, qui sont dites tropicales. Et donc qui nous emmènent dans un imaginaire très lointain, mais qui sont aussi très proches de nous, parce que c'est des plantes qu'on connaît tous et dont beaucoup d'entre nous vivent avec.
D'accord. Alors j'aimerais quand même qu'on insiste un peu sur le fait que vous arrivez au musée Louis Senlec, vous demander à la directrice ici présente, Caroline, et merci encore d'être là, de transformer les lieux et qu'elle accepte. Et franchement, moi j'ai trouvé ça extraordinaire. Je connais ce musée et quand je suis venue, je ne l'ai pas reconnue. Donc que la directrice ait été d'accord, bah, ça voulait dire que c'était un apport, certes temporaire, provisoire pour le musée, mais que c'était une transformation qui allait changer quelque chose. Alors Nicolas, qu'est-ce que le fait d'avoir abattu une cloison, il faut quand même le faire, hein, puis d'avoir déplacé des cloisons qui peuvent être amovibles, qu'est-ce que vous recherchez, à part ce qui vient tout de suite à l'esprit du visiteur, l'apport de la lumière? C'était beaucoup plus que ça, et Marie l'a presque dit.
Oui, donc Marie évoquait cette idée, il y a l'idée d'ouvrir le point de vue du visiteur également sur la ville, notamment sur le jardin du musée. Et également, c'était pour nous une façon de faire entrer donc, la lumière et de pouvoir intégrer du vivant et donc des plantes dans le musée.
Et du coup, cette lumière permet aux plantes d'avoir ce qu'il leur faut pour survivre, en fait, comme ce sont des plantes qui ne sont pas dans la terre, mais qui sont en pot. Donc c'était cette idée-là, et puis aussi cette idée d'interconnexion. Ça me plaît bien, entre le jardin, comme si il n'y avait pas de mur, finalement.
Oui, et puis ces fenêtres créent aussi presque un point de vue qui s'intègre dans l'exposition.
Exactement. Donc voilà, moi je trouve que c'est une très jolie idée. Alors la seule chose, c'est que les cloisons vont revenir.
Une petite pause musicale grâce à Claude Nougaro qui chante « Il y avait une ville ».
Que se passe-t-il? Je n'y comprends rien. Il y avait une ville et il n'y a plus rien. Je me souviens que je marchais dans une rue au milieu de la cohue sous un joyeux soleil de mai. C'était plein de couleurs, de mouvements et de bruit. Une fille m'a souri et je me souviens que je la suivais. Je la suivais sous le joyeux soleil de mai, chemin faisant j'imaginais un mot gentil pour l'aborder. Et puis voici que dans le ciel bleu de midi, de plus en plus fort j'entendis, comme arrivant de l'infini, ce drôle de bruit. Ce drôle de bruit, je me souviens que les gens s'arrêtèrent de marcher et d'un air étonné, tout le monde a levé le nez vers le ciel angélique, couleur de paradis, d'où sortait cette musique comme accordée sur l'infini. C'était étrange, est-ce qu'il allait neiger des anges? Les gens guettaient dans un mélange d'inquiétude et d'amusement. Et brusquement, il y eut un éclair aveuglant, et dans un souffle incandescent, les murs se mirent à trembler. S'est-il passé? Je n'y comprends rien. Il y avait une ville, et il n'y a plus rien, il n'y a plus rien qu'un désert de gravats, de poussière, qu'un silence a hurlé à la place où il y avait une ville qui battait comme un cœur prodigieux. Une fille dont les yeux étaient pleins du soleil de mai. Mon Dieu, faites que ce soit un mauvais rêve. Réveillez-moi, 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 réveillez-moi.
Caroline, là je vous donne la parole. J'ai trouvé ça très intéressant. Moi je me disais, c'est une si belle idée, si lumineuse, on reste comme ça. Et puis vous m'avez expliqué que pas du tout. Je vous écoute, Caroline.
Et on ne va pas pouvoir rester comme ça, non, puisque pour des raisons de conservation qui ne sont pas forcément évidentes pour le grand public, mais qui sont pour nous, conservateurs de musées, on ne peut pas laisser la lumière naturelle entrer dans les espaces, quand notamment on expose des œuvres sur papier. Mmh. Donc les dessins, les estampes qu'on expose très souvent ici au musée Louis Senlec, Notamment l'année prochaine, on aura une très belle exposition sur l'artiste affichiste Léoné Tocapiello, donc que du papier.
Oui.
Donc forcément, des règles de conservation assez strictes qui sont 50 lux maximum, ce qui est assez peu. Mmh. Donc on a forcément besoin d'occulter les fenêtres et on va retrouver nos cloisons. C'est aussi une question de pouvoir exposer plus de choses.
D'espace.
Parce que là, on perd énormément de surface d'exposition. Mais là, c'était tout à fait nécessaire et j'ai accepté, même si au départ, c'était quand même un gros changement pour le musée. J'ai accepté parce que de toute façon, si on voulait faire entrer le vivant, on ne pouvait pas ne pas ouvrir les fenêtres. C'était évident qu'il fallait faire entrer la lumière pour le bien des plantes.
Voilà, donc c'est quand même une transformation extraordinaire et ponctuelle. Et franchement, vous avez eu de la chance, je trouve, que la directrice accepte. Et c'est très bien aussi, hein, c'est très bien. Bon, bah, c'était quelque chose d'original, on va dire. Alors maintenant, j'ai une question à vous poser. Quand on arrive dans la première salle de cette exposition, on voit, alors il y en a quatre gros isothermes, des grosses bouteilles. Et donc, Marie ou Nicolas, vous allez nous expliquer ce que ces bouteilles font là. Marie ?
Oui, alors dans notre pratique artistique, depuis quelques années, on fait ce qu'on appelle des installations d'infusion.
Oui.
Donc ce sont en fait des infusions qui prennent place dans les lieux d'exposition.
À chaque fois ?
Pas à chaque fois, mais on l'a fait énormément.
D'accord.
Dans beaucoup de lieux et de cas de figure différents. Et ces infusions sont proposées aux visiteurs, donc elles sont en libre service là dans le cadre de cette exposition. Donc le visiteur peut se servir et déguster une de ces quatre infusions. Donc il y a l'ortie piquante, le nénuphar racine, le pissenlit commun et le lierre grimpant.
Voilà. Alors Nicolas, pourquoi déjà c'est très sympathique que quand on vient visiter une exposition, on puisse boire quelque chose. Ça c'est déjà très bien. J'ai goûté à l'infusion nénuphar, c'est mon choix. Et c'était bon, c'était pas exceptionnel, mais c'était bon, voilà. Donc ça peut faire partie des plaisirs de l'exposition. Mais Nicolas, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi le choix de ces quatre plantes particulières, donc l'ortie, le pissenlit, le nénuphar et le lierre. Pourquoi ce choix ?
En fait, ce choix s'est fait par rapport à la proposition que nous avons fait au musée. À savoir, il y a deux plantes qui sont liées à l'histoire de la peinture, donc le nénuphar et le lierre, notamment la peinture de paysage, et deux plantes qui sont plus des plantes du local, on pourrait dire, comme l'ortie et le pissenlit. Le pissenlit ayant en plus la particularité d'avoir été commencé à être cultivé pour sa commercialisation dans le Val d'Oise.
Ah, très bien.
Donc, c'est pour ça que nous sommes partis sur ces, sur ces quatre plantes.
D'accord.
L'idée également étant que pour nous, ces infusions sont de l'ordre de, également de la peinture, du pictural, puisque quelque part, quand on les boit, on est dans le paysage, on ingère du paysage et on est...
Oui, ça c'est une très jolie idée que j'ai ressentie de faire partie de l'exposition. Comme si le visiteur, il se disait, bon ben voilà, je suis un des petits éléments qui conduisent à visiter l'exposition. C'est très agréable comme sentiment. Alors Marie, je reviens à vous. Donc voilà, ce choix des plantes qui sont locales et puis en même temps, ben, le nénuphar, c'est pas spécialement local évidemment. Donc ça nous fait rentrer dans l'exposition. Et ensuite, une fois qu'on a dégusté, et puis on peut y revenir, ça c'est très agréable, et goûter les quatre, c'est aussi très bien. Alors, les salles du premier étage se déclinent d'une certaine façon. Donc, qu'est-ce qu'il y a au premier étage, Marie ?
Alors, au premier étage, il y a donc cette installation d'infusion qui est donc en deux parties, donc une partie dégustation, mais également une partie où il y a des plantes en pot décoratives tropicales qui ont un système de bouteilles enfoncées dans les pots qui est un système d'arrosage en goutte à goutte de ces infusions.
Voilà, c'est ce qui est très important, c'est que les plantes ne sont pas arrosées avec n'importe quelle eau mais avec l'eau des tisanes et du coup nous nous sentons en lien avec le végétal humain, végétal en fait, bon, ne font pas qu'un mais Voilà, on a des correspondances.
Complètement. L'idée, c'est de partager la même boisson entre le visiteur et les plantes qui habitent cette exposition. Donc, à la fois habiter l'exposition, prendre le temps et partager avec ces plantes.
Voilà, très jolie idée artistique, ça, j'avoue. Alors, le premier étage, ça s'appelle infiltration. Donc, on comprend bien sûr le sens. Ces plantes, Nicolas, elles viennent d'où, ces grandes plantes ornementales un peu?
Alors, en fait, c'est des plantes tropicales typiques de bureaux,
oui,
ou de décoration qu'on utilise beaucoup dans des institutions, dans des bureaux, dans des commerces, qui sont toutes uniformisées en fait. Et donc on a emprunté pour l'exposition et l'exposition le musée va en prendre soin justement pendant toute cette durée d'exposition.
D'accord. Et quel est le but de voir ces plantes? Qu'est-ce que vous avez voulu suggérer aux visiteurs, Marie?
Alors l'idée, c'était à la fois de transformer l'exposition aussi en jardin, d'intégrer du vivant dans une exposition, c'est aussi un acte fort de montrer que les choses ne sont pas forcément sont forcément en mouvement, en évolution, et aussi de créer vraiment un lien entre nous, le visiteur, qui partageons la même boisson que ces plantes, et de réfléchir à quel lien nous lie à ces plantes.
Absolument.
Aussi, ces plantes sont souvent des plantes décoratives qu'on met dans des coins. Là, elles prennent le centre.
Elles sont mises en valeur
complètement de l'exposition.
Et il y a bien sûr des photos. Alors, Nicolas, vous pouvez nous parler justement de ces photos issues d'un appareil Polaroid et du coup de ce que vous recherchez comme effet.
Alors en fait il y a deux types de photos. Il y a des photos issues de films instantanés, qui sont des films instantanés qu'on a scannés, numérisés et agrandis, et il y a des photos numériques. Donc il y a ces deux formats et qui sont une sélection d'images qu'on a fait pendant ces 8 dernières années. Ce qui nous intéresse beaucoup avec le film instantané, c'est le fait que l'image capte la météo. Et donc, elle peut être teintée elle se teinte vers le rouge lorsqu'il fait chaud, et elle se teinte plutôt vers le bleu lorsqu'il fait froid. Également, il y a des aberrations qui peuvent être créées par la météo, et notamment le froid, et des réactions chimiques qui nous intéressent beaucoup. C'est pour ça qu'en les scannant et en les agrandissant, on rend d'autant plus visibles, en fait, ces aberrations.
Et c'est quand même un petit peu dû au hasard. Donc, ce que vous avez ensuite comme résultat, ça peut vous étonner.
Complètement, il y a un effet de surprise, et de spontanéité qu'on aime beaucoup avec le Polaroid, et de transformation du réel qui est assez forte en fonction des conditions de prise de vue.
Voilà, donc on laissera les visiteurs se faire une idée du lien entre vos photos, les plantes et toutes les interrogations que ça peut susciter. Et puis on va monter au deuxième étage. Alors l'exposition s'appelle Extra Tropical et cette fois ce sont 4 vidéos. Donc Marie, vous allez nous parler globalement de ces 4 vidéos, mais il y a quand même 4 ports, et vous allez citer le nom de ces ports, PORTS, qui sont des ports pas forcément français d'ailleurs, on voyage un petit peu, pas trop loin non plus, et le lien encore entre les ports, l'industrie, le commerce, la mondialisation, les croisières, enfin tout ce que j'ai pu voir. Et puis ces plantes qui sont là et qui résistent.
Alors, ces 4 vidéos qui font partie d'une série qui s'appelle Extra Tropical et qui font le portrait à chaque fois dans 4 ports européens de 4 plantes différentes. Donc, on a Brest et les palmiers, on a Lisbonne et les yuccas, on a Anvers et le caoutchoutier, et Gênes et le figuier de Barbarie.
Voilà. Alors, Nicolas, ces 4 ports n'ont pas été choisis au hasard. Ils sont chargés d'histoire et ils sont chargés même de ce qui se passe dans notre époque contemporaine. Est-ce que rapidement, vous pouvez nous dire pourquoi ce choix de ces 4 lieux un peu emblématiques?
Ce qui nous intéressait, c'était de faire un tour de l'Europe, des différentes mers qui entourent l'Europe, et en s'intéressant à ces plantes qui ont migré, d'évoquer le passé colonial européen et son impact sur les écosystèmes et la planète.
Alors, passé colonial, ça c'est une chose. Quoi d'autre, Marie? Parce qu'il y a beaucoup aussi dans notre mondialisation, dans ce modernisme, dans cette course effrénée, il y a beaucoup aussi de questions et puis de rêves. Est-ce que vous pouvez, pour conclure, nous en parler?
Alors, chaque port, en fait, a une spécificité industrielle et liée à la mondialisation et l'histoire de l'Europe. Mais aussi, dans ces vidéos, on essaye d'imaginer comment les plantes pourront résister dans un futur et auront un apport bénéfique pour résister dans ce moment de dérèglement climatique que nous vivons.
Voilà, apport bénéfique pour la nature, pour les plantes et peut-être pour l'espèce humaine aussi.
Pour tout l'écosystème.
Voilà, on peut espérer. Il me reste à vous remercier infiniment, Marie Ouazani et Nicolas Carrier, de nous avoir servi de guide pour que les auditeurs et auditrices aient envie, et je pense qu'ils auront envie, à la fois de venir goûter vos infusions et voir cette belle exposition. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci beaucoup.
Caroline, je vous donne la parole pour terminer cette interview parce que cette exposition va être l'occasion de journées particulières au mois de mai donc et jusqu'au mois de septembre. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques rendez-vous?
Oui, tout à fait. Nous avons mis en place, comme à chaque exposition, une programmation pédagogique et culturelle. Donc on va avoir des rencontres avec les artistes, notamment en juin. Le 4 juin, Marie et Nicolas seront là pour être auprès du public et expliquer leur travail. Donc ça, c'est une date qu'on attend avec impatience, donc le 4 juin. Le samedi 17 juin, nous organisons une découverte de l'herboristerie avec une herboriste de l'Oise qui va apprendre au public à faire reconnaître et à utiliser des plantes médicinales.
Ouais, ça va beaucoup plaire.
Voilà. Et pour juste avant, j'ai oublié quand même la Nuit européenne des musées, un événement national pour laquelle le service des publics du musée a mis en place une enquête à travers les salles du musée, donc sous la forme de jeu, de découvrir cette exposition et voilà, on a mis en place une enquête.
Alors ça, c'est le 13 mai et c'est pour tout public.
C'est pour tout public, famille, sans problème, voilà. C'est pour tout public.
D'accord.
Et ensuite, pour les enfants, nous avons mis en place des ateliers du mercredi. Donc, tous les mois, il y a un atelier du mercredi, donc jusqu'au mois de septembre, avec forcément une coupure en juillet et en août. Mais en juillet, nous avons des stages pour les enfants à partir de 8 ans.
Donc, le musée est ouvert toute l'année ?
Il est ouvert toute l'année, en dehors des périodes d'exposition. Donc là, nous sommes ouverts jusqu'aux journées du patrimoine. Et après les journées du patrimoine, nous serons fermés pour une courte période, jusqu'à la fin du mois d'octobre.
D'accord. Les journées du patrimoine, on va terminer là-dessus. Elles ont lieu les 16 et 17 septembre.
Oui, tout à fait.
Qu'est-ce qui se passera donc ?
Alors, il y aura des ateliers en famille. Oui. À l'arrière du musée, nous avons un bel espace pour consacrer aux ateliers d'art plastique. Et donc, nous accueillons les familles pour pratiquer toutes sortes de choses avec nos médiatrices. Et puis, il y aura une visite commentée de l'exposition le dimanche, donc à 15h de l'exposition, mais pas cette fois avec les artistes, mais avec les commissaires de l'exposition. Donc, moi-même et Guillaume Breton, qui est le directeur du Centre d'art Y NSAPC.
D'accord. Et je suppose que nos deux artistes seront repartis en quête de nouvelles photos, de nouvelles plantes et puis de nouvelles découvertes.
Oui, on sera en Belgique, en effet.
Voilà. Caroline Oliveira, merci beaucoup. Marie et Nicolas, encore merci. Et du coup, à bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Nous voici revenus tout près d'Enghien, à Saint-Gratien, en compagnie d'Alfred, l'artiste aux multiples talents. Pour introduire son travail, nous allons écouter d'abord Léo Ferré qui nous chante Monsieur William.
C'était vraiment un employé modèle, Monsieur William. Toujours exact et toujours plein de zèle, Monsieur William. Il arriva jusqu'à la quarantaine sans fredaine, sans le moindre petit drame. Mais un beau soir du mois d'août, il faisait si bon, il faisait si doux, que Monsieur William s'en alla flâner droit devant lui au hasard. Et voilà. Monsieur William, vous manquez de tenue, qu'alliez-vous faire dans la 13e avenue? Il rencontra une fille bien jeunette, Monsieur William. Il lui paya un bouquet de violettes, Monsieur William. Il l'entraîna à l'hôtel de la pègre, mais un nègre a voulu prendre la femme, Monsieur William hors de lui, lui a donné des coups de parapluie. Oui, mais le nègre dans le noir lui a coupé le cou en deux coups de rasoir. Monsieur William, et vous manquez de tenue, mon ami. Eh oui, qu'alliez-vous faire dans la 13e avenue? Il a senti que c'est irrémédiable, Monsieur William. Il entendit déjà crier le diable.
Monsieur William, allons, allons, mon ami, pressons.
Aux alentours, il n'y avait personne qu'un tromboneur chantant la peine des âmes, un aveugle en gémissant, sans le savoir, a marché dans le sang, puis dans la nuit a disparu. C'était peut-être le destin qui marchait dans les rues, oh là là. Monsieur William, vous manquez de tenue, mon ami. Eh oui, vous êtes mort dans la 13e avenue.
Bonjour Alfred.
Bonjour.
Alors Alfred, d'où vous vient pour commencer, puis on évoquera quand même ce pseudonyme sympathique, je vais dire, et même plutôt humoristique. D'abord, première question, d'où vous vient cette vocation artistique plurielle, puisque vous êtes auteur de BD, musicien, comédien, et j'ai mis des points de suspension.
Et il y a plein de points de suspension.
Je m'en doute.
En fait, moi, je viens d'une famille de comédiens, justement. Mes parents sont comédiens. J'ai grandi, je suis vraiment ce qu'on appelle le cliché de l'enfant de gabarit, quoi. C'est-à-dire trimballé de tournée en tournée. J'ai passé une partie de ma vie à dormir dans les remises des décors et à côté des costumes pendant que mes parents jouaient sur scène.
Donc, c'est plutôt sympathique.
Ça n'a pas été désagréable. En tout cas, ça a constitué une personnalité qui, je crois, enfin, en tout cas, est restée très curieuse. Il y avait toujours beaucoup de musiciens, de danseurs, d'auteurs à la maison.
Et c'est une chaude d'ambiance, hein, en fait.
En tous les cas, ça a constitué un terreau, voilà, dans lequel j'ai toujours eu envie d'aller piocher. Et l'idée, le fait que je sois devenu auteur de bande dessinée, parce que le dessin a pris une place essentielle très vite.
Oui.
Enfant très timide et très discret, le dessin a occupé immédiatement une place.
Façon de vous exprimer.
Exactement, en fait, d'exister malgré tout.
Mm-hmm.
Il n'empêche que j'ai toujours eu un œil tourné vers tout ce qui pouvait se passer autour et une évidence, en tout cas, à me nourrir de ce qui pouvait se passer au théâtre, en littérature, en musique, et donc d'aller moi-même faire un peu de théâtre, un peu de littérature, de la musique. Voilà, tout ça fait que c'est une espèce de grand gloubi-boulga dans lequel je continue de piocher.
Bon, bah écoutez, c'est très agréable. Ça peut avoir des inconvénients
pour
un enfant.
Aussi.
Ça en a certainement. Mais en même temps, voilà, ça a fait que vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui.
Au final, je ne regrette rien.
Voilà, tant mieux. Alors, vous êtes autodidacte.
Oui.
Donc, vous allez me parler des rencontres essentielles qui vous ont aidé à trouver, alors j'allais dire à la fois votre style, mais vos styles, et puis vos stylos, hein. C'est un peu facile, mais c'est ça.
Oui. Les rencontres essentielles, alors il y a évidemment tous les niveaux, il y a plusieurs strates, il y a celles qu'on
fait. Les premières, on va dire, parce qu'après on
les premières, honnêtement, les premières rencontres artistiques qui vont nourrir quelque chose, c'est clairement mes parents.
Oui.
Moi je suis dans les coulisses, j'ai 5 ans, 6 ans, 7 ans, et depuis les coulisses, je dessine ce que mes parents sont en train de jouer sur scène.
Ah là là, donnez-moi un exemple.
Ah ben, un exemple de
un exemple de ce qu'ils jouaient et que vous avez essayé d'expliquer.
Je me souviens parfaitement de sketch que jouaient mes parents à un moment qui était censé être une foule de gens. Ils n'étaient que trois comédiens sur scène, mais ils jouaient eux-mêmes tous les personnages qui se prenaient à partie d'une engueulade d'une foule de personnages. Et je me souviens parfaitement réinterpréter ça en dessinant moi tous les personnages. Donc en imaginant physiquement des gens qui n'étaient physiquement sur scène que en salopette à l'époque, façon Coluche, c'était des sketchs à cette époque humoristique. D'accord. Et moi je me vois en train de dessiner des hommes, des femmes, des grands, des petits, des gros, des personnages, ceux qui sont en train d'interpréter. Je fais ça de manière totalement inconsciente, en tout cas pas organisée dans ma tête. Je constate juste des années plus tard que c'est le début pour moi de mon initiation au fait de raconter des histoires avec des dessins. Des histoires qui se passent en vrai devant moi, je les traduis en dessin. D'accord, et très naturellement, je trouve ma place à cet endroit-là.
Très tôt.
Et si donc je dois parler d'une première influence, aussi étrange que ça puisse paraître, je vais citer mes parents, puisque c'est d'eux que me vient en tout cas le goût, l'envie et la curiosité de raconter des histoires dessinées. Après, il va y avoir plein de rencontres. Je sais qu'il y en a une extrêmement importante qui va être celle artistique, cette fois-ci, de Roland Topor, qui était quelqu'un touche-à-tout. Justement, écrit des chansons, des pièces de théâtre, des décors, des costumes, de la télé pour enfants, des romans étranges. Enfin, c'est des choses, quand j'ai une douzaine d'années que je vais devenir adolescent, entre lui, Boris Vian, des choses comme ça. Enfin, c'est des choses un peu étranges, des touche-à-tout. Même Boris Vian, c'est quelqu'un qui écrit et qui chante des chansons, qui écrit des romans très noirs, d'autres très drôles, qui écrit des pièces de théâtre, qui fait des canulars. Enfin, je crois que sans m'en apercevoir, et c'est vraiment avec du recul que je constate que c'est surtout des touche-à-tout qui m'ont le plus inspiré, nourri.
Est-ce que je peux me permettre de dire que ces touche-à-tout vous en faites ce que vous êtes, c'est-à-dire un peu un touche-à-tout vous-même, hein?
Il est clair et évident que j'ai pris modèle, j'allais dire, sur eux en me disant on a le droit. On a le droit de ne pas faire qu'une seule chose.
Voilà.
Il s'avère que naturellement, mon souffle naturel est allé vers la bande dessinée, mais pas que. Aujourd'hui, j'ai besoin de faire de tout, d'écrire des chansons, de faire du théâtre, de faire de la musique, de faire parfois tout ça sur une scène, en faisant des dessins sur des scènes projetées pendant que je joue de la musique en même temps.
Il faut être polyvalent pour faire tout ça.
Il faut être très souple.
Oh là là, bon, autodidacte, félicitations.
Merci.
Alors maintenant, pourquoi est-ce que vous êtes allé chercher ce prénom qui est sympathique, hein, d'Alfred?
Alfred, c'est un prénom, un pseudo, évidemment, au départ, que je prends quand j'ai une quinzaine d'années. D'abord parce que, voilà, mes parents étant comédiens, occupant beaucoup de place, une place qui est liée à leur activité, du fait que ils parlent fort, ils sont charismatiques et ils occupent de l'espace.
Et puis il y a beaucoup de monde chez vous.
Et il y a du monde tout le temps, il y a beaucoup de gens.
Donc c'est vrai,
tout le temps. Il faut trouver une place. La mienne, elle va être étrangement, je dis étrangement parce que, encore une fois, il y avait peut-être d'autres manières de faire, mais elle va être de choisir un prénom. C'est-à-dire d'abandonner. De ne pas prendre déjà à signer ce que je dessine du nom de mon père, enfin du nom qui est Papagali. Donc ça, par contre, j'ai aucun souci avec lui. C'était simplement que quand j'ai 15 ans, j'ai la sensation qu'il me faut exister à travers quelque chose, et ce quelque chose va être, je m'auto-baptise.
Oui, une espèce d'identité que vous vous donnez à vous-même.
Exactement. Et donc ce prénom, il vient simplement de jeux entre copains qu'on se donne à l'époque, qui sont de se donner des surnoms un peu idiots, un peu marrants, un peu machin.
D'accord.
Le mien, ça va être Alfred, et ça va rester. C'est-à-dire que je commence à signer des premiers dessins dans des fanzines de ce surnom-là, et puis de fil en aiguille. En réalité, ça fait bien plus longtemps, j'ai 47 ans, donc je vis depuis bien plus longtemps sous ce patronyme que sous mon vrai patronyme de naissance qui est Lionel. J'ai pas de problème avec ça non plus, mais je constate que ça fait plus de 32 ans, en vérité, que tout le monde ne m'appelle pas autrement qu'Alfred.
Oui. Alors, je vais quand même rappeler ce que sont les fanzines, c'est des fanatiques magazines.
Bravo,
hein,
exactement.
Voilà, donc vous avez participé.
C'est les petits magazines qu'on faisait bien avant Internet, évidemment, qu'on photocopiait, agrafait, puis qu'on allait vendre sur des petits festivals ou dans la rue.
Voilà, donc déjà.
À 12 ans déjà.
Voilà. À quel moment, Alfred, avez-vous pu vivre de vos créations multiples? Alors, est-ce qu'il y a... Il y a quand même une date qui compte dans votre biographie, c'est 1997,
Bravo.
Avec la rencontre et des éditions Delcourt.
Bravo.
Est-ce que c'est à partir de ce moment-là, parce que c'est pas facile, hein, de vivre de sa plume et d'utiliser sa plume comme vous le faites?
C'est très très mal payé au départ, en tout cas, on va pas se mentir. Ma chance, par la suite, elle sera pas au début, mais par la suite, elle sera d'avoir quelques livres qui ont marché suffisamment et qui ont donc... On fait qu'en gagnant même peu, je vivais de peu, donc j'arrivais à emboîter tout ça. au moment où donc ma rencontre avec les éditions Delcourt en 97 marque effectivement le début de on me paye pour mon travail.
Oui.
Avant ça, c'est pas vraiment le cas, où c'est vraiment des petits trucs à la main, des petits dessins pour des pizzerias, des petites choses et des fanzines, donc c'est 3 sous.
Ouais.
C'est vraiment ça pas significatif, on vit pas avec ça. Donc à ce moment-là, évidemment, je suis encore un peu chez mes parents, un peu je me débrouille entre copains, enfin bon, c'est
mais je sais que les débuts dans ce genre de vocation sont toujours très
aléatoires.
C'est pour ça que je me suis permis de
aucun souci. En revanche, effectivement, le début avec les éditions de cours va être même pas très bien payé, commence à l'être. Et moi, je me suis toujours adapté à ce que je gagnais.
D'accord. En
fait. Même si aujourd'hui j'ai la chance de bien gagner ma vie, j'ai jamais été du genre à dépenser beaucoup plus que ce que je pouvais. Donc, si je gagnais 3000 francs à l'époque, je me débrouillais avec 3000 francs il y a 25 ans. Et puis voilà. Et puis.
C'est une belle philosophie que de s'adapter à ce qu'on a.
J'essaie.
Voilà. Parfait. Très très bien.
Sobriété.
Ça va assez bien avec ce que j'ai découvert de vous. Moi, je ne vous connaissais pas beaucoup. Alors, on va parler de quelques œuvres représentatives de votre désir de ne pas vous enfermer dans un genre. Donc j'en ai sélectionné quelques-unes et ce serait gentil que vous puissiez nous donner un petit mot chacune, s'il vous plaît.
Avec plaisir.
Et j'ai essayé de rendre compte de votre éclectisme. Hein,
c'est gentil.
On va voir. Alors, j'ai choisi Futuropolis.
Ah, les éditions Futuropolis, éditeur de bande dessinée qui a eu l'audace à un moment où la bande dessinée était effectivement marquée par le genre. C'est-à-dire qu'il fallait faire soit du western, soit des histoires un peu classiques, enfin, a eu l'audace de proposer des formats, des paginations, des graphismes, des auteurs, des récits qui ne se voyaient jamais avant, donc des choses en noir et blanc, des choses intimistes, de l'autobiographie, déjà un petit peu, ce qui aujourd'hui est devenu courant en bande dessinée, mais dans les années, fin des années 70, c'est très 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 nouveau, va proposer du genre, même de la science-fiction, mais d'une manière un peu plus audacieuse que simplement on arrive sur Mars et on se bat contre des martiens.
Ouais.
Donc voilà, Futuropolis, ça fait partie des éditeurs qui m'ont donné envie d'être curieux en bande dessinée. J'ai toujours aimé une bande dessinée plus classique, mais là je me rends compte qu'il y a des auteurs qui proposent autre chose,
voilà. Et on sort un peu
d'autres manières, d'autres formats, d'autres façons de faire, et ça va me nourrir, ça me continue de m'accompagner.
Donc c'était un bon choix.
Oui.
Il y a eu Octave, avec aussi la rencontre de David Chauvel.
Octave,
ça a été
première série pour les enfants, qui arrive à un moment très particulier, parce que David Chauvel, scénariste, me propose le scénario de Octave et le Cachalot, un livre pour enfants, à un moment où je ne pense absolument pas avoir quoi que ce soit à dire aux enfants. J'adore les imprévus. Je passe ma vie à guetter les imprévus et les sorties de route, parce que je vais découvrir que je prends un plaisir fou à m'adresser aux gamins, qu'on va pas faire qu'un, mais on va en faire 4 de tomes, que je vais prendre un plaisir fou à aller dans des écoles pour rencontrer des gosses, faire monter des spectacles pour les gamins, avant de devenir moi-même papa. Donc c'est vraiment quelque chose auquel je ne me destinais pas du tout, et sans cette rencontre inattendue avec David Chauvel, si ça se trouve, j'aurais jamais pris cette tangente et je serais passé à côté d'un point important de mon plaisir d'auteur aujourd'hui.
Oui, mais ça a été une vraie ouverture.
Tout à fait.
Je vous rejoins, parce que moi j'ai été professeur de français et j'ai fait des classes théâtre. Donc voilà, je sens bien
qu'il y a
de l'écho. Voilà, je comprends. Je voudrais parler aussi du Désespoir du singe.
Ouais. Avec mon ami Jean-Philippe Perrault au scénario, le Désespoir du singe, c'était notre envie de faire, alors là pour coup presque de revenir à quelque chose d'un peu classique, c'est-à-dire on avait envie tous les deux de rendre hommage à un genre qu'on aimait beaucoup, qui était l'aventure façon corto-maltaise, c'est-à-dire l'aventure romantique. Les personnages un peu ténébreux, désespérés, qui sont pris dans les tourments de conflits plus grands qu'eux, mais qui cherchent l'amour au milieu de tout ça. Il y avait un truc, c'est David Green avec Docteur Jivago, c'est des choses comme ça. On adorait ça tous les deux, et à un moment c'était, si on faisait nous notre espèce de fresque romantique, un peu de destin, de grande destinée, etc. Alors je sais pas si on l'a bien réussi, c'est pas la question, mais en tout cas nous on s'est beaucoup amusé à faire ça. Oui.
Je vois que vous prenez beaucoup de plaisir dans la vie à faire
j'essaie.
Alors ensuite, évidemment, vous avez parlé de Topor tout à l'heure, avec le Café Panique.
Oui, Café notamment. Panique, très important, parce que c'est pas forcément, c'est certainement pas le meilleur livre de Topor, ça j'en sais rien. Il s'avère qu'en revanche, ça va être le premier que je vais lire quand j'ai 12 ans de lui, et que ça me fascine. Café Panique, c'est un recueil de petites nouvelles qu'il écrivait, je sais pas pourquoi d'ailleurs au départ, en tout cas c'est un recueil de petites nouvelles, ça se passe dans un même endroit, un café qui s'appelle le Café Panique, et à l'intérieur, les poivrons du coin se racontent des histoires abracadabrantes. Et je trouve ça fascinant. J'adore ce truc-là. Je ne sais pas encore très bien qui est Topor. Je comprendrai plus tard que j'adorais déjà, sans savoir, Téléchat, qui était quelque chose qu'il faisait donc avec des marionnettes à la télé pour gamins, que j'adorais ce truc-là sans savoir qui était Roland Topor à ce moment-là. Et je me souviens parfaitement du jour où je prends dans la bibliothèque de mes parents ce Café Panique avec une couverture bizarre faite de collages faits par Topor lui-même, des collages sur lesquels il a redessiné des visages, on ne comprend pas très bien ce que c'est, et la couverture me fascine, les histoires me fascinent, et je tombe amoureux du travail de Topor. Là, je comprends que c'est un touche-à-tout. Génial et provocateur et nécessaire.
Parfait. Écoutez, ça m'étonne pas que vous l'ayez rejoint.
Je fais à petite mesure, un petit pas.
Mais... Alors ensuite, on arrive dans du lourd, je vais dire, hein, avec Pourquoi j'ai tué Pierre et votre rencontre avec Olivier Kahn.
Olivier Kahn qui est devenu, vous savez, dans la vie, on se choisit des frères. On se choisit une famille. Olivier est devenu mon frère. Il y a 25 ans maintenant quasiment, la preuve au bout de 4 minutes après notre rencontre, on a compris qu'on avait un bout de notre vie, osmose totale. On a compris qu'on avait un morceau de vie à partager ensemble et qu'on vivrait plein de choses ensemble. Pourquoi j'ai tué Pierre, ça va devenir un livre qu'Olivier ne destine pas à devenir un bouquin, puisque c'est l'histoire de son enfance à travers un événement malheureux avec un prêtre, j'ai pas besoin d'en dire forcément plus, qui survient à l'année de ses 12 ans. Et il raconte ça dans un journal intime pour lui, l'année où sa propre fille vient d'avoir 12 ans et où il prend conscience qu'à 12 ans, on est un enfant fragile. On est un enfant. Exactement. On va même pas rajouter fragile parce que ça veut rien dire. Mais on est un enfant. Et il se met à écrire ce truc et à pas savoir quoi en faire. Je vais lui proposer, parce que la manière qu'il a de me raconter ça, c'est de laisser plein de silence. Et je lui dis, si tu veux raconter ce truc-là, donne-moi ton texte, donne-moi ton journal. J'y mettrai des dessins et reste tous les silences, toutes les hésitations. Moi, je les remplirai avec des dessins et on verra ce que ça donne. Et ça va devenir un livre un peu particulier qui, en plus, nous rapprochera d'autant plus qu'il va avoir un gros succès à ce moment-là.
Oui, je le rappelle.
Un livre qui a été primé, qui a été adapté au théâtre, qui continue qui s'est vendu dans 12 pays. Enfin, un drôle de parcours pour un bouquin qu'on faisait pour nous au départ, sans aucune intention, enfin en tout cas, sans aucune projection que ça devienne un tel petit phénomène.
2017, prix essentiel Angoulême.
2007,
prix du public.
Ouais. Donc, et puis des prix un peu partout à l'étranger, en Allemagne, en Belgique, en Espagne. Enfin, on a été beaucoup traduit. Donc c'est un livre qui a soudé encore plus notre amitié.
Oui, j'imagine bien. Puis c'est pas n'importe quel livre. Moi j'ai lu Je mourrai pas gibier. Ouais.
Encore
là aussi,
costaud, hein, sujet
costaud, on va dire, Guillaume Guéraud, scénariste, et des dessins, extrêmement, comment je vais dire, pointus.
Ouais, c'est très juste. Voilà. Le mot est très bien choisi. En deux mots, très rapide, Guillaume Guéraud, c'est un roman qu'il a écrit au départ, qui s'appelle donc Je mourrai pas gibier, roman qui est un roman assez court et qui raconte la grande violence dont va être victime un adolescent dans un village du Médoc, grosso modo. Voilà. Il s'avère qu'à ce moment-là, je lis son bouquin, je le prends pleine poire, je connais Guillaume qui est un ami. Et au moment où je découvre son livre, ça faisait un moment que moi-même je cherchais le moyen de parler d'un truc qui me terrorise le plus dans la vie, qui est justement la violence gratuite. C'est un truc qui me terrorise. Et je cherchais comment essayer de raconter ça dans un livre. Je ne trouvais pas. Je lis son roman. Je me rends compte qu'en fait c'est ça que je voulais faire. Donc il l'a fait. Donc pas besoin. Et je laisse tomber, sauf que 6 mois après, j'y pense tout le temps, et je lui demande est-ce que je peux adapter. J'ai besoin de me frotter quand même à ça. C'est violent, c'est dur, mais j'ai besoin, moi, de purger, d'exorciser des choses à travers ton texte. Et il me laisse donc faire des images et faire ce livre sur son texte.
Oui. Ouais. Alors, qui est
pointu, c'est un mot
pointu,
très juste.
Oui, c'est vraiment ce que j'ai pensé en le refermant.
C'est le mot
voilà,
très bien choisi.
Et puis voilà, ça veut dire beaucoup de choses. Oui. Alors, on va être un peu plus léger avec Italique.
Oui.
C'est vos Italiques. Oui. On va aller un petit peu plus vite parce que j'aimerais quand même qu'on parle de l'exposition à laquelle les auditeurs et auditrices, je pense, vont être sensibles. Hein, ils vont venir voir. On est juste à côté. Cette exposition donc a lieu à Saint-Gratien.
Oui.
Et on en parle dans quelques minutes. Je voudrais aussi parler quand même de Dao, l'homme qui chante.
Alors,
donc là, vous avez suivi un chanteur.
Étienne Dao, effectivement, est rentrée il y a quelques années maintenant, en 2012, elle est rentrée en studio pour enregistrer un nouvel album. Il s'avère que j'avais très envie depuis un moment de faire un livre qui raconte le processus créatif d'un artiste. Ça aurait pu être un sculpteur, ça aurait pu être un chorégraphe,
ou
un autre chanteur. Il s'avère qu'à ce moment-là, moi j'apprécie beaucoup le travail d'Étienne Dao, que j'ai eu l'occasion de rencontrer par l'intermédiaire de son manager à ce moment-là, et que je propose ce truc de venir tourner tenir le journal de bord de l'enregistrement de la création d'un disque. Il accepte, à ma grande surprise, et pendant 3 ans quasiment, je vais le suivre, de l'écriture des chansons jusqu'à la fin de la tournée. C'est 3 années de la vie d'un disque.
Donc c'est complet, en
fait. On fait le tour complet. Exactement, voilà, bah oui. de la vie d'un album, et j'ai la chance d'avoir pu le suivre beaucoup à Londres, en studio, un peu partout.
Ça, c'est une expérience.
Ça a été extrêmement joyeux. Ah là, c'est quelqu'un d'extrêmement joyeux également. Donc,
alors ensuite, il y a Come Prima.
Come Prima, Puissenzo et Italique, pour y revenir, qui sont des livres qui partent de l'Italie. Moi, je suis à moitié italien par mon père. J'ai grandi en partie en Italie. Ma fille est née en Italie. J'ai vécu très régulièrement. C'est mon sujet. L'Italie, ce que j'appelle mes Italies, c'est qu'à chaque fois, je compose des environnements à partir d'endroits dans lesquels j'ai véritablement vécu, à partir de souvenirs qui sont les miens, dont je fais des fictions. Autant comme Come Prima, c'est l'histoire de mes deux grands-pères pendant la guerre et l'après-guerre, des choix différents qu'ils ont fait. Mon grand-père étant de conviction communiste, quand son frère, donc mon grand-oncle, était chemise noire, fasciste, ça a frappé énormément de familles en Italie, tout comme en Espagne, c'est l'histoire de l'histoire, j'allais dire. Et moi, j'ai grandi dans ces histoires-là, même si je suis arrivé bien après, j'ai grandi dans ces histoires-là. Et je pioche dans ce terreau pour en faire mes livres italiens, ce que j'appelle italien.
Et ce Come Prima a eu le Fauve d'Or au Festival International de la Bande Dessinée d'Angoulême.
Exactement, bon, 2014.
Donc, voilà. Alors, ensuite, très vite, Chemin des Célestins, ça, moi, je trouve que c'est sympa d'aller en résidence à
Angoulême. On m'a invité au Théâtre des Célestins, m'invite à venir faire un livre qui part de mon rapport au théâtre et au dessin.
Donc, ça, c'est bien. Et puis, alors, pour conclure, parce que quand même, lien BD-théâtre, on a bien compris, poème en BD aussi.
Alors moi, toujours, chaque fois qu'un texte, que ce soit une chanson, une poésie ou un roman, m'évoque des images, je ressens le besoin de les faire.
Ouais. Voilà, d'accord. Donc tout de suite, les liens.
Moi, je ne fais pas de distinction.
Voilà, très bien. C'est un tout. Votre exposition à Saint-Gratien, elle dure jusqu'à quand?
Jusqu'à fin juin. Donc on a le temps de venir voir.
On a le temps de venir voir.
Et effectivement, c'est une exposition. L'invitation de Karine Roma, la curatrice, la commissaire d'expo ici, me donne carte blanche. Ça fait des années que je fais un travail, moi, de notes, de souvenirs. C'est-à-dire que je note des fragments de souvenirs, je me mets dans un état un peu de concentration pour aller piocher des souvenirs perdus, je fais des séances d'hypnose, je travaille autour de tout un tas de choses pour faire remonter à la surface des fragments de secondes, des fragments de souvenirs, comme des puzzles, comme si une boîte de puzzles entièrement mélangée, j'essayais de recomposer des images un peu précises. Ça, c'est un travail qui me passionne, que je fais depuis une dizaine d'années pour moi-même. Et encore une fois, c'est une démarche que j'ai quand on me propose des lieux d'exposition. Je vais souvent piocher là-dedans dans ces carnets que je remplis de ces souvenirs pour y créer des expos. L'expo qui est ici à Saint-Gratien, là, à l'espace Villeglé, c'est vraiment en lien avec ça. J'ai fait un immense diaporama de 170 fragments de souvenirs qui me sont très personnels, mais qui, pour certains, peut-être, auront une vocation universelle. Je veux dire, c'est qu'il y a certainement des images dans lesquelles les gens se trouveront et se retrouveront avec une évocation qui aurait propre, même si le souvenir au départ me concerne moi de manière très précise.
Alors vous avez intitulé votre exposition « Endroits incertains ».
Endroits incertains, exactement. C'est simplement parce que ce travail et ces notes me ramènent dans des endroits. Ce que j'appelle ces souvenirs, je les appelle des endroits. Ce sont des endroits dans lesquels j'aime retourner. J'aime aller piocher des choses. Et puis, côté incertain, c'est que les souvenirs les transforment un peu. On n'est jamais totalement sûr que le souvenir soit conforme à ce qu'il a vraiment été au moment d'être vécu. Mais ça ne me dérange pas. C'est-à-dire que je le dessine tel que je m'en souviens, pas tel que peut-être il était de manière véridique.
Exactement.
Donc, c'est incertain, mais ce sont des endroits joyeux.
Juste une dernière question.
Vos
projets, alors en 30 secondes.
En 30 secondes, je fais un troisième et dernier livre italien après Come Prima et Senso. Je fais un troisième et dernier opus italien qui composerait une sorte de trilogie de mon Italie affective.
D'accord. Écoutez, il me reste Alfred à vous remercier infiniment pour cette spontanéité.
C'est gentil. Voilà. Merci à vous.
Merci beaucoup et puis belle exposition.
À très bientôt.
Au revoir.
Bonne soirée à toutes et à tous. Rendez-vous au mois de juin où nous ferons un petit tour dans Paris et autour de Paris afin d'avoir mille et une idées de balades en tout genre pour l'été. Soutenons-nous, regardons-nous, sourions-nous. À bientôt.
IDFM 98 FM.